VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
15h à Conakry, 16h à Libreville. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. En Égypte, 28 tués, dont de nombreux enfants. Tel est le bilan de l'attaque par des hommes armés et masqués ce vendredi contre un bus plein de chrétiens se rendant au monastère copte de Saint-Samuel dans la province de Minya, au sud du Caire. Personne n'a revendiqué l'opération, mais l'attaque a lieu un mois et demi après les attentats contre deux églises coptes qui ont fait 47 morts et avaient été revendiquées par le groupe djihadiste État islamique. Al-Azhar, la plus haute institution de l'islam sunnite basée au Caire, a condamné l'attaque d'aujourd'hui à la veille du début du Ramadan, le mois de jeûne musulman. Le grand imam Ahmed Al-Tayeb l'a qualifié d'inacceptable. À l'étranger, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a présenté ses condoléances au peuple égyptien après ce qu'il a qualifié de terrible attentat. Le président russe Vladimir Poutine a assuré de son côté qu'il s'agissait d'un nouveau témoignage de la barbarie et de la cruauté du terrorisme. Pour sa part, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a déclaré sur Twitter que personne ne doit craindre pour sa vie en pratiquant sa foi. En Tunisie, ouverture ce vendredi à Tunis du procès des 26 personnes inculpées dans le cadre de l'attentat de Sousse, qui a fait 38 morts en 2015, dont 30 touristes britanniques, et a été revendiqué par le groupe État islamique. 20 des prévenus sont accusés notamment de crimes terroristes, homicides et complots contre la sûreté de l'État. Les 6 autres sont des membres des forces de sécurité inculpés de non-assistance à personne en danger. Et puis en Libye, de violents affrontements opposent des groupes armés rivaux ce vendredi dans le sud de Tripoli, la capitale. Les combats ont commencé à l'aube dans les quartiers d'Abou Slim, Abda et Salahedin, où des chars ont été déployés. Plusieurs groupes hostiles au GNA, le gouvernement d'Union nationale, revendiquent sur leur page Facebook des attaques contre les forces loyales à cet exécutif soutenu par la communauté internationale.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En RDC, le député d'opposition d'Elie Sesanga, élu de Louisa, un territoire de la province du Kasaï central, berceau en septembre 2016 de la rébellion Kamuinansapu, a estimé ce vendredi à plus de 3000 morts le bilan des affrontements entre les insurgés et les forces de sécurité depuis le début de l'année dans cette région. Le total actualisé des décès liés aux violences dans les provinces du Kasaï central et du Kasaï est de 3302 morts depuis janvier 2017 à ce vendredi, a déclaré le député d'opposition à l'AFP. Il a dit se fonder sur une compilation non exhaustive des décomptes faits par les cellules de son parti politique L'Envol dans les deux provinces. M. Sesanga a ajouté qu'en plus du grand chef Kamuinansapu et de ses milliers de morts, 17 autres chefs coutumiers ont été exécutés dans les différents territoires concernés. Pour sa part, l'armée congolaise a déclaré à la mi-mai que les violences avaient fait plus de 500 morts depuis fin mars, et côté ONU, on évalue les bilans des victimes à plus de 400 morts, dont 2 enquêteurs de l'organisation internationale assassinés en mars, sans compter 1,277,000 déplacés. Et puis le président Donald Trump est maintenant à Taormina en Sicile au sommet du G7. Hier, le chef de l'exécutif américain a effectué sa première visite à Bruxelles. Il y a renouvelé son appel au respect des engagements financiers de tous les États membres de l'OTAN. Henri Désiré Nzouzi, expert en relations internationales, nous parle des enjeux de cet engagement.
Durant la campagne électorale qui a vu la victoire de Donald Trump, on a très bien senti que Trump se recentrerait prioritairement en interne. Donc les États-Unis d'abord, et c'est pour cette raison qu'il a tenu un discours quasiment de banquier vis-à-vis de ses homologues de l'OTAN, en leur expliquant la nécessité de mettre la main à la poche, puisqu'il y a des pays qui ont failli à leurs obligations de cotisation. Donc ce n'est pas du tout une surprise. Trump, en fait, est en train de distiller simplement son point de vue sur le fond d'une telle institution. Et en bon homme d'affaires, son problème se résume essentiellement au nerf de la guerre, c'est-à-dire à l'argent que chacun doit impérativement dépenser pour justifier l'existence d'une institution qui ne survivra que si sa capacité d'action est renforcée. Et pour cette raison, je pense qu'il n'y a aucune surprise de sa part. Trump est un pragmatique. Maintenant, il aura tout le temps, bien évidemment, de se ressaisir, puisque le temps de la campagne électorale étant terminé, il est maintenant confronté à la réalité.
Henri Désiré Nzouzi, expert en relations internationales.